Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée « Rencontres avec les organoïdes ». Donc, pour parler de ce sujet, j'ai ce matin avec moi donc Claire Cherbuy, qui est ingénieure de recherche à l'INRA et titulaire d'un doctorat en physiopathologie de la nutrition humaine, qui travaille notamment sur les interactions entre microbiote intestinal et santé de l'hôte. Et j'ai également Laurence Finot, biologiste cellulaire de formation, qui a une thèse en biologie et physiologie animale, qui travaille également à l'INRA dans l'équipe lactation. Donc nous allons avec elle développer les organoïdes et parler un petit peu de justement c'est quoi un organoïde.
Alors ça marche, oui. Ok. Alors qu'est-ce qu'un organoïde? En fait, un organoïde, c'est une structure, alors vous voyez les images qui passent derrière moi, une structure cellulaire en trois dimensions et qui essaye de mimer à la fois la structure de l'organe et sa fonction, sa fonctionnalité. Donc c'est une définition assez simple de l'organoïde. Et ces structures-là, eh bien, elles sont souvent soit unicellulaires, soit multicellulaires. Et vous voyez, c'est des structures qui sont relativement complexes par rapport à la culture de cellules que l'on pouvait classiquement faire il y a quelques années. Donc ce qu'il faut retenir avant tout, c'est cet aspect tridimensionnel qui est assez proche de l'organe, sans être véritablement un organe à part entière.
Voilà, alors pour compléter en fait ce que vient de dire Laurence, en fait dans organoïde, il y a le suffixe oïde qui veut dire ressemble à et proche de, et avant il y a organe. Donc effectivement, ça va être, comme l'a dit Laurence, des structures cellulaires tridimensionnelles qui vont répliquer un certain nombre de caractéristiques anatomiques et fonctionnelles d'un organe en culture, donc in vitro. Donc c'est vraiment des cellules qui vont pousser hors d'un organisme. Ce qu'il faut peut-être ajouter également, c'est qu'en fait, ça cultiver des cellules hors d'un organisme, on sait le faire depuis finalement assez longtemps. Et vraiment, la rupture avec les organoïdes, eh bien, c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est des structures qui vont s'auto-assembler, s'auto-organiser. Ça, c'est un premier point. L'auto-organisation, l'auto-renouvellement de ces structures, donc en in vitro, en culture. Il y a aussi une représentativité de la diversité cellulaire. Donc c'est en ça en fait qu'on va pouvoir reproduire la complexité d'un tissu ou d'un organe. Et il y a aussi le côté fonction. Donc il y a au moins une fonction d'un organe qui est répliqué dans un organoïde.
Comment on obtient un organoïde du coup? Comment ça se fait que jusqu'à très récemment, finalement, on ne savait pas faire? Qu'est-ce qui a changé? Comment on fait pour obtenir un organoïde?
Oui. Donc, il y a deux méthodes, en fait. Il y a une première méthode qui est basée sur la récupération de tissus d'un organisme. Et dans les tissus, en fait, il faut savoir qu'il y a des cellules souches, qu'on appelle cellules souches adultes quand on est sur l'organisme adulte. Quand on est sur des embryons ou des fœtus, on a des cellules souches fœtales ou embryonnaires. Donc ça, c'est une méthode, c'est d'aller récupérer les cellules et puis ensuite d'aller chercher ces cellules souches, donc isoler ces cellules souches. Alors ce sont des avancées qui datent des années 90, le fait d'isoler des cellules souches adultes. Et on a une seconde méthode qui est basée sur, cette fois-ci, une découverte qui a été faite dans ces années-là, mais qui a donné lieu à un prix Nobel, qui est le prix Nobel en 2012 de médecine de Yamanaka et de Gordon, et qui est une reprogrammation cellulaire, c'est-à-dire qu'on part de cellules qui sont matures, qui sont différenciées, et on va reprogrammer ces cellules de manière à ce qu'elles soient des cellules souches. Et donc on appelle ça, cette méthode, ces cellules, on les appelle des IPS, c'est-à-dire des cellules souches pluripotentes induites. Et donc ce sont ces deux avancées qui permettent aujourd'hui de générer des organoïdes.
Voilà, donc j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est en fait que précisément ces organoïdes, maintenant on sait les obtenir, tout simplement parce qu'on s'appuie sur un socle de connaissances, donc comme l'a dit Laurence, autour de la culture de cellules souches, au cours des mécanismes de différenciation cellulaire également. Donc voilà, c'est sur toute cette base de connaissances qui a été finalement accumulée, surtout au cours de ces dernières décennies, qu'aujourd'hui on est capable en fait de produire, de générer ces organoïdes. Alors, il faut aussi avoir à l'esprit qu'on sait faire des organoïdes à peu près de tous les tissus aujourd'hui. Hein. On sait faire des organoïdes intestinaux, c'est les premiers qui ont été développés. On sait faire des organoïdes rénaux, hépatiques, pancréatiques, par exemple, et également des organoïdes de cerveau. J'imagine qu'on aura aussi l'occasion de revenir sur ce type d'organoïdes.
Alors, vous voyez effectivement sur les images les différents types d'organoïdes qu'on peut obtenir. Là, vous avez un organoïde de peau, mais effectivement, on a des organoïdes de différents organes. Et souvent, par exemple, sur les organoïdes de cerveau, on va appeler ça des cérébroïdes. Sur des organoïdes de la rétine, par exemple, on va appeler ça rétinoïdes. Donc, véritablement, ça prend après le nom de l'organe que l'on essaye de mimer.
D'accord. Et donc, du coup, pourquoi fabriquer des organoïdes? Quelle est la motivation première qui a amené au développement de cette technologie, ou en tout cas de ce savoir-faire?
La première motivation, en fait, c'est disposer de modèles in vitro, hein, de modèles en culture qui vont se rapprocher le plus fidèlement possible de l'in vivo. C'est vraiment quelque chose d'important de disposer de ces modèles in vitro. Pourquoi, en fait? Parce que, par exemple, il y a des tissus ou des organes qui sont peu accessibles, qu'on connaît peu, finalement. Donc, l'important, c'est de pouvoir en disposer en culture pour pouvoir mieux les étudier. Donc, il y a tout un ensemble aussi d'applications de ces organoïdes. Hein, et vraiment, c'est l'intérêt, c'est vraiment de disposer de ces modèles, hein, qui vont vraiment mimer in vitro, sur lesquels également on va pouvoir en fait contrôler l'environnement, parce que ces organoïdes, ils sont baignés dans un milieu dit de culture, hein, qu'on définit nous-mêmes. Hein, et du coup, ça va être l'occasion un petit peu d'appréhender un peu plus, par exemple en recherche fondamentale, les mécanismes qui vont être à l'origine en fait de la construction de l'organisation d'un tissu, par exemple.
Alors, je vais également compléter. Il y a une utilisation très, très importante dans la recherche biomédicale. Hein. Ce sont des outils que l'on va utiliser pour tester des médicaments, des métabolites. Donc, ce sont des outils intermédiaires, finalement, entre véritablement l'animal, enfin l'organe, chez l'animal, et puis la culture de cellules. Donc, il est important de développer également ce type d'outil parce que ça a une utilité importante pour réduire le nombre d'animaux à des fins d'expérimentation animale, hein, puisqu'on va pouvoir faire effectivement des études sur ce type d'outils que sont les organoïdes, et donc des études préliminaires qui évitent d'utiliser des animaux. Alors, sachant qu'effectivement, ce sont des outils qui sont, on va dire, alternatifs, mais pas substitutifs. Ça veut dire qu'on pourra faire certaines études préliminaires, mais à un moment donné, on devra passer effectivement sur des expérimentations sur animaux, mais en une phase terminale. Et donc, c'est d'autant plus important que dans la science, et en tout cas dans l'expérimentation animale, on a des principes, hein, on a en tout cas des principes éthiques où on essaye de réduire au maximum le nombre d'animaux, où on essaye également de remplacer l'utilisation d'animaux par des méthodes alternatives, où on essaye de raffiner les méthodes pour réduire la souffrance animale. C'est le principe des 3 R en éthique animale. Et donc, les organoïdes rentrent dans ce R de remplacer, en fait.
Et du coup, pour continuer en fait sur cet aspect, quel est l'intérêt finalement de développer ce type de modèle? Donc, Laurence a parlé donc de ces modèles en fait comme alternatives possibles aux modèles animaux. Pour prolonger aussi, et parce qu'on peut aussi aller au-delà, hein, dans l'intérêt de ces modèles, donc encore une fois, ce sont des modèles qui vont répliquer en culture le fonctionnement d'un organe. Donc on peut trouver également des applications en recherche pharmacologique, hein, ou alors en recherche clinique. Alors par exemple, on peut tester, donc ce sont des modèles par exemple qui vont se rapprocher d'organes ciblés, par exemple, pour une pathologie donnée. Donc, on peut tester, on peut tout à fait penser à tester tout un ensemble de traitements sur ces modèles cellulaires et du coup, essayer d'identifier en fait les traitements qui vont être les plus efficaces. En recherche clinique également, on parle beaucoup d'organoïdes comme outil de recherche pour faire de la médecine dite personnalisée, puisqu'en fait, on peut obtenir ces organoïdes finalement à partir d'un donneur en particulier, donc à partir d'un ensemble de donneurs. Donc, on peut avoir un organoïde par donneur. Et vous savez qu'en fait, il y a dans certaines pathologies, en tout cas, il y a des patients qui vont répondre à un traitement, d'autres pour X raisons qui ne vont pas répondre à ce traitement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'adapter, d'identifier les meilleurs traitements à un patient donné, et les organoïdes peuvent vraiment être une aide en fait à la prise de décision pour adapter le meilleur traitement pour un patient donné.
Alors je vais juste approfondir un petit peu ce dernier point par un exemple concret. Bon, en oncologie, en cancérologie, en fait, on va utiliser ces organoïdes. Donc les organoïdes de tumeur, on appelle ça des tumoroïdes. Et on sait qu'on a une diversité tumorale chez les patients, c'est-à-dire que un cancer n'est pas toujours le même que chez un autre patient. Donc cette diversité tumorale fait que les traitements anticancéreux peuvent marcher sur un patient et ne peuvent pas marcher sur un autre patient. Et donc la médecine personnalisée dans ce cadre-là consiste à récupérer les cellules cancéreuses d'un patient, de les mettre en forme organoïde, en tumoroïde, et d'aller tester différents médicaments, enfin différents traitements anticancéreux, de combiner différents traitements anticancéreux et véritablement de trouver le traitement le plus adapté au patient, celui qui va fonctionner sur ce patient.
En le testant du coup sur l'organoïde au lieu de sur la personne sur qui il aurait des effets secondaires et sur qui on ne va peut-être pas tout tester pour...
Tout à fait. Tout à fait. Parfois, en fait, quand on parle d'organoïde, on parle aussi d'avatar. Voilà, donc c'est tout à fait ça. L'idée, c'est de pouvoir faire des études cliniques, non pas directement chez le patient, mais du coup sur ces modèles cellulaires, ces sortes de substituts en fait.
Les cellules d'un organoïde, elles sont particulières. Il y a des choses différentes avec des cellules... De l'organe dont elles sont tirées?
Alors déjà aujourd'hui, en fait, quand on parle d'organoïde, il faut savoir que, à ma connaissance en tout cas, on n'a jamais réussi finalement à obtenir tout l'ensemble de la complexité d'un organe. Ça reste quand même des structures qui, certes, sont beaucoup plus sophistiquées que les cellules qu'on utilisait jusque-là, mais qui restent encore, par rapport à la complexité de l'in vivo, qu'on peut dire minimaliste, en fait. Ça reste réductionniste. Donc, il faut encore travailler pour encore davantage complexifier le système. Donc, effectivement, c'est une des limites aujourd'hui des organoïdes, hein, même si, encore une fois, c'est un grand bond en avant par rapport aux cellules in vitro sur lesquelles on pouvait travailler jusque-là.
C'est surtout que l'organoïde, en fait, c'est une entité... mais qui est déconnecté du micro-environnement ou des autres entités qui ont une connexion avec lui dans l'organisme entier. C'est-à-dire que, par exemple, un organoïde, eh bien, va être déconnecté du système vasculaire. Or, le système vasculaire est extrêmement important pour faire fonctionner un organe. Donc, dans un organisme entier, en fait, on a des organes qui sont interconnectés. Et l'organoïde, finalement, comme il est ex vivo, il n'est pas connecté à ses autres organes ou à ses autres éléments ou facteurs qui sont importants pour le faire fonctionner. On va avoir des fonctionnalités de l'organoïde qu'on n'aura pas par rapport à un organe dans l'organisme entier. Et c'est aujourd'hui les avancées qui sont faites par certaines équipes de pouvoir recréer aussi un micro-environnement qui soit proche de l'organisme. C'est-à-dire co-cultiver à la fois les cellules d'intérêt, hein, qui vont fournir les organoïdes, mais également les cellules qui vont avoir une influence sur le développement de cet organe, entre autres des vaisseaux, des néovaisseaux. Donc, co-cultiver ces différents types cellulaires.
Le milieu dans lequel baigne l'organoïde est différent selon le type d'organoïde ?
Ah oui, il est différent et c'est même ce qui est à la base en fait de la possibilité de produire différents types d'organoïdes. Et ça, on s'appuie hein, sur toute cette base de connaissances qui a été accumulée donc ces dernières décennies. Mais si vous voulez produire à partir de ces fameuses cellules iPSC dont a parlé Laurence, hein, qui sont des cellules souches reprogrammées en fait, pour obtenir des organoïdes de différents types cellulaires, effectivement, le milieu de culture va être différent. Les facteurs, les composés vont être différents. Donc, il faut guider en fait les cellules souches vers la différenciation de l'organoïde qu'on vise.
Et c'est là toute l'importance également d'utiliser les organoïdes pour étudier le développement de l'organe. Parce que pour pouvoir guider ces organoïdes, il faut qu'on sache, qu'on acquiert des connaissances sur comment l'organe se développe. Comment, à un moment donné, on a une combinaison d'hormones qui fait que les cellules vont se différencier en tel type cellulaire. Et de reproduire ça in vitro, ça sous-entend qu'on ait les connaissances nécessaires pour le faire.
Oui, mais du coup, ça se répond, parce que ce que vous apprenez in vitro aussi vous renseigne peut-être sur le développement in vivo.
Tout à fait, c'est des allers-retours.
D'accord, donc on a parlé des différents types d'organoïdes. On a parlé organoïdes animaux, il y a des organoïdes animaux, il y a des organoïdes humains, il y a des tumoroïdes, donc je suppose que là, c'est pour des cas cliniques. Il y a des différences entre les organoïdes animaux, les organoïdes humains, en termes de gestion, règles, organes cibles, ce genre de choses?
En termes de bioéthique, par exemple?
Par exemple.
D'accord. Alors, évidemment, quand on parle d'organoïdes humains, hein, il faut... en fait, il y a des groupes de réflexion qui commencent à se construire, à se monter, hein, parce qu'on imagine bien que, en fait, ces entités cellulaires, il faut qu'il y ait un cadre éthique, hein, pour pouvoir les utiliser. Donc, il y a tout un ensemble de groupes de réflexion, de comités d'éthique, hein, qui commencent à réfléchir, effectivement, sur les règles d'application, d'utilisation de ces organoïdes, donc on pourra y revenir. Voilà, pour l'instant, le cadre sur lequel on s'appuie est le cadre qui existe déjà, qui est en fait sur... il y a déjà un cadre éthique, hein, un cadre réglementaire en fait pour pouvoir travailler sur des tissus humains. Donc on s'appuie sur ce cadre. Et puis en fait maintenant il y a d'autres, en tout cas pour ce qui est des organoïdes humains, hein, il y a des interrogations de bioéthique, hein, qui émergent, qui sont d'ailleurs parfois inédites. Hein, et du coup voilà.
Vous avez vraiment... un exemple?
Alors par exemple en fait, si on reprend en fait les cadres réglementaires qui existent jusque-là, en fait elles s'adressaient à des, on va dire des composantes, des entités qui étaient formées en quelque sorte naturellement. Par exemple, on a des cadres éthiques pour travailler sur la personne humaine, hein. Par exemple, on doit déposer, quand on veut faire une étude clinique, travailler sur des prélèvements humains, il faut déposer ce qu'on appelle un dossier auprès de commissions, de comités de protection des personnes, ça c'est obligatoire. Mais ça c'est pour la personne humaine, pour les prélèvements de tissus humains. Les embryons humains, il y a encore un cadre législatif réglementaire qui est un petit peu différent. Et les animaux, il y a aussi un cadre éthique en fait qui correspond à tout ce qui est expérimentation animale. Pour les organoïdes, c'est un petit peu particulier en fait, parce que c'est une entité qui va, quelque sorte, est un artefact en fait, qui n'est pas une composante naturelle, qui est juste en fait créée par ce qu'on peut appeler de l'ingénierie cellulaire. Du coup, quel statut lui donner ? Est-ce qu'il faut le relier à l'organe d'origine ? Est-ce qu'il faut lui donner un statut propre, par exemple ? Est-ce qu'on peut toujours s'appuyer sur des règles éthiques? Donc du coup, cette espèce de statut finalement d'entité qui peut vivre une vie propre hors de l'organisme, c'est déjà une question à laquelle les comités d'éthique en fait commencent à s'emparer, sur lesquels ils commencent à réfléchir.
Et puis il y a un deuxième aspect, hein, c'est qu'il y a le statut de l'organoïde en tant que tel, mais il y a également le fait que l'organoïde est généré par des cellules qui sont données par des personnes. Et donc, on est sur le don de cellules, comme on pourrait être sur le don d'organes. Et donc là, il y a également toute une législation à faire pour que la personne qui donne ces cellules, qui ne sera finalement peut-être pas informée de l'usage de ces cellules, elle donne juste à une biobanque, mais derrière, il y a un usage qui est fait de ces cellules. Il y a une génération d'organoïdes qui peut aller jusqu'à l'embryoïde, qui peut être utilisé par différents instituts, voire le militaire. Et donc, il y a tous ces aspects-là qui sont à prendre en compte pour essayer de cadrer l'usage de ces organoïdes, parce qu'il y a un donneur humain derrière.
Et pour continuer, justement, on peut tout à fait penser à ce que, par exemple, si un donneur donne des cellules souches, hein, par exemple ces fameuses iPSC, et qu'elles soient données donc, pour générer des organoïdes, on peut tout à fait penser à ce que le donneur puisse s'opposer, par exemple, à ce que ce soit, ça puisse générer tel ou tel type d'organoïdes, par exemple des organoïdes cérébraux, pourquoi pas ? Tout le monde n'a peut-être pas envie que ces cellules souches servent à faire quelque chose. Donc c'est vrai que finalement, c'est le lien entre l'organoïde et son donneur, comme vient de le rappeler Laurent, c'est aussi vraiment quelque chose d'important et encore une fois sur lequel il faut vraiment réfléchir.
Oui, c'est assez inédit finalement.
Ce sont des questions assez inédites, oui, en termes de bioéthique, oui.
C'est émergent parce que justement il y a des avancées très rapides dans ce domaine-là et que très souvent la législation vient après les avancées qui sont faites, comme dans beaucoup de... Voilà. Et aujourd'hui, il y a des questionnements qui sont très légitimes hein, sur qu'est-ce que finalement un organoïde, quel statut on peut lui donner. Est-ce qu'à un moment donné, des organoïdes qu'on va générer en embryoïdes, on ne va pas avoir des propriétés cognitives? Et s'il y a des propriétés cognitives de ces embryoïdes, eh bien, il va falloir aussi légiférer là-dessus. C'est-à-dire, si un embryoïde eh bien, est capable de ressentir la souffrance, il faut également légiférer pour réduire au minimum cette souffrance. Voilà, il y a tous ces questionnements qui émergent. Récemment, hein, puisqu'on parlait du comité d'éthique qui a été formé à l'INSERM pour s'emparer de ces questions-là, qui date de 2018. Donc c'est vraiment récent.
Et voilà, et c'est vrai qu'en fait, il faut vraiment avoir à l'esprit que ces modèles d'organoïdes, hein, on en parle depuis moins de 10 ans, on va dire une petite dizaine d'années pour être exact, et la recherche autour des organoïdes s'accélère de manière absolument impressionnante. Donc, il faut vraiment aussi se dépêcher. Hein, il faut vraiment mettre en place des cadres, hein, des directives, des recommandations. Hein, les chercheurs qui travaillent sur organoïdes, en fait, nous, on le demande. Hein, et donc, c'est vraiment des choses dont il faut que les comités d'éthique s'emparent et ils sont en train de s'en emparer.
Vous êtes nombreux à travailler sur les organoïdes ?
On est de plus en plus de laboratoires de recherche à utiliser ces modèles cellulaires, ça c'est sûr. Après, ça reste affaire d'experts. Hein. N'importe qui ne peut pas développer des organoïdes dans son laboratoire de recherche. Mais c'est quelque chose qui se répand et qui devient de plus en plus accessible.
Alors, je voudrais juste revenir un petit peu à votre question de départ où vous posiez la question sur différence entre le biomédical et l'agronomie, parce qu'on est aussi dans le domaine agronomique, on fait partie d'INRAE, donc l'Institut national en recherche en agriculture, agroalimentaire et environnement. Et nous, notre enjeu est différent finalement du biomédical. Hein, on se rend bien compte qu'entre le biomédical et l'agronomie, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Et en ce qui me concerne, en tout cas, nous, générer des organoïdes, on est vraiment dans la recherche. Ce qui n'empêche que même en étant dans la recherche académique, on sait qu'à côté de ça, eh bien, il y a toute la production in vitro qui se met en place et que les organoïdes peuvent également servir pour produire hein, des différentes productions in vitro qui sont un mode de production alternatif à l'élevage. Alors nous, en tant qu'institut de recherche, on ne va pas développer ce genre de mode de production, mais on sait bien que les industriels se sont emparés de ces modes de production, donc le fait de cultiver de la viande in vitro. Aujourd'hui, on parle aussi de produire du lait in vitro. C'est encore les prémices, hein, mais on sait que les organoïdes, ce n'est pas que dans le biomédical, dans l'agronomie également, ça a un intérêt de plus en plus grandissant.
Oui, on parlait tout à l'heure du fait que les organoïdes étaient indépendants, entre guillemets, quand on parlait bioéthique, mais ils sont clairement dépendants du milieu dans lequel on les développe. Sorti de ce milieu, l'organoïde, il n'est pas pérenne.
Non, il n'est pas pérenne, non, tout à fait. Il ne peut pas se développer s'il n'a pas les bonnes conditions de culture. Mais ça, c'est inhérent à tout, effectivement, tout modèle de cellulaire en culture, effectivement.
C'est finalement une différence avec un organisme. Enfin, le vivant, lui, se développe sans le milieu, à moins qu'on considère la planète comme notre milieu, finalement.
Oui. c'est un autre concept, en fait, également. Quand on dit on considère la planète comme, comme notre milieu, c'est vrai que notre santé, la santé humaine, dépend de la santé animale, est dépendant de la santé de la planète, est dépendant de la santé végétale. C'est un concept qui a émergé là aussi depuis quelques années, qui est le concept une santé, one health, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler que sur la santé humaine, il faut aussi travailler sur les autres santé.
Quelle est la longévité d'un organoïde? Quelle est sa durée de vie? Parce que moi, j'ai à l'esprit, par exemple, quand on a développé le clonage dans les années 90, on s'est aperçu en fait que les clones avaient une durée de vie moindre par rapport au modèle qui avait été utilisé. Les organoïdes, quelle est leur longévité?
Alors, ça va dépendre du type d'organoïde qu'on a en culture. Après, par exemple, si on parle de l'obtention d'organoïdes, par exemple, pour obtenir un organoïde intestinal, c'est une dizaine de jours à partir du moment où on a les cellules souches. Donc, c'est très rapide. Un organoïde cérébral, c'est beaucoup plus long si on veut qu'il atteigne un certain niveau de maturité. Maintenant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est presque des structures qui sont, entre guillemets, immortelles, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, tout simplement, en ce qui concerne, par exemple, je vais reprendre l'exemple des organoïdes intestinaux, par exemple, c'est ce à quoi, en fait, Laurence faisait allusion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire des biocollections, des biobanques d'organoïdes. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on est capable de les congeler, un petit peu comme ce qu'on peut faire avec des cellules d'embryon, par exemple. On est capable de les congeler et de les remettre en culture. Et ça repart très, très bien. Donc, c'est en ça qu'on est capable de faire des biocollections. On est aussi capable tout à fait d'amplifier en fait ces modèles cellulaires. On part de juste quelques cellules et en fait à force de ce qu'on appelle des passages, donc en fait on va casser les organoïdes à certains moments et puis à partir de ces petits lambeaux d'organoïdes, ils vont en reproduire en culture. Donc on est capable d'amplifier. Donc en fait un organoïde finalement, on peut dire qu'il a sa longévité propre en fait en culture, à partir du moment où on l'a d'une cellule souche jusqu'à un organoïde mature, mais en fait on a aussi tout un ensemble de moyens en fait de quelque sorte de faire perdurer cette culture sur le long terme.
Et alors donc du coup on vient de dire que les organoïdes avaient un temps de développement plus ou moins long. Est-ce que d'une certaine manière ce temps de développement, selon si c'est un organoïde intestinal, un organoïde cérébral, est-ce que ça mime le développement in vivo? Est-ce que in vivo également on voit une cohérence entre le temps de développement in vitro par rapport au temps de développement in vivo?
Si on reprend les deux exemples, c'est exact, c'est ça en fait. C'est-à-dire que l'épithélium digestif, c'est un épithélium très dynamique qui va se renouveler très très vite. Donc là, on a des cellules souches qui sont très dynamiques. Donc ça mime un petit peu, ça reprend un petit peu les mécanismes mis en place, en tout cas dans ce renouvellement. Après, pour l'obtention d'organoïdes cérébraux, c'est un peu différent. On n'est pas obligé. Enfin, pour les organoïdes intestinaux, en fait, on peut partir de cellules souches adultes. Donc, on n'est pas obligé de partir de ces fameuses iPSC. En revanche, pour les organoïdes cérébraux, en fait, on est obligé, évidemment, de repartir de ces iPSC. C'est compliqué d'avoir des biopsies cérébrales. Et en fait, du coup, on mime plus en fait effectivement le développement cérébral que un fonctionnement. Aujourd'hui, par exemple, les organoïdes cérébraux sont plutôt des organoïdes qui vont mimer en fait le fonctionnement d'un cerveau au stade fœtal ou chez les grands prématurés, par exemple. Donc, on n'en est pas encore à un degré de maturité qui mime un cerveau adulte.
Oui, en fait, les organoïdes sont quand même assez imparfaits. Puisqu'il manque beaucoup de choses. L'un des freins pour justement cultiver ces organoïdes à long terme, c'est le fait qu'il manque tout ce micro-environnement de vascularisation, parce que la vascularisation, finalement, ça n'est pas que apporter des nutriments à la cellule, c'est aussi permettre à la cellule de gérer ses déchets. Et dans un organoïde, eh bien, quand il manque en tout cas tous ces canaux où la cellule peut évacuer ses déchets, on va se retrouver avec des cellules qui vont avoir des déchets qui vont être cytotoxiques pour elles, qui vont être toxiques. Et à un moment donné, l'organoïde, effectivement, va se nécroser par certains endroits. Et tous ces aspects-là sont des freins qu'il faut lever pour générer des organoïdes qui vont, eux, pouvoir perdurer.
Donc du coup, là, en ce moment, finalement, il y a une forme de recherche pour améliorer ces organoïdes.
Alors, pour améliorer, effectivement, et pour... donc, on parlait de l'immaturité de ces organoïdes, et pour permettre la différenciation totale. C'est-à-dire qu'un organe a plusieurs fonctionnalités. Souvent, on arrive à obtenir une fonctionnalité de l'organoïde, mais pas toutes les fonctionnalités. Aujourd'hui, eh bien, si on veut être plus proche de l'organe, il faut véritablement qu'on ait à la fois la structure et les fonctionnalités de l'organe. Et aujourd'hui, ce n'est pas véritablement le cas. Il y a encore beaucoup d'avancées à faire dans ce domaine pour obtenir véritablement ce qui est le plus proche de l'organe.
Est-ce que on peut rentrer dans le détail ? Est-ce que vous pouvez parler de vos travaux respectifs pour donner des exemples concrets du travail avec un organoïde, le but, la méthode, le temps que ça prend, les avancées, les développements, les perspectives ?
Ah bah, je vais commencer. Donc, moi, je travaille sur la glande mammaire de vache laitière. Hein. Et donc, je produis des organoïdes. Alors, bien sûr, ce que je cherche à avoir, c'est des organoïdes avec des cellules qui synthétisent le lait. Et c'est une architecture particulière, hein, puisqu'on sait que ces cellules, eh bien, elles ont besoin d'avoir alors, une polarité, c'est-à-dire une orientation qui permet à la cellule à la fois de recevoir les hormones, qui vont être des signaux, pour synthétiser les constituants du lait qui vont être sécrétés dans une sorte de canal, hein, et le lait ensuite est acheminé. Donc ça, c'est un petit peu la structure qu'on veut reproduire in vitro, et également la fonctionnalité qui est de produire les différents constituants du lait. Aujourd'hui, on n'en est pas là, puisqu'on arrive à obtenir des organoïdes qui ont une structure 3D, mais qui ne produisent que quelques-uns des constituants du lait. Entre autres, parmi les caséines, on sait que la cellule épithéliale qui synthétise les constituants du lait produit plusieurs types de caséines. Et aujourd'hui, on peut produire de la bêta-caséine. Alors, je rentre dans le détail, hein, mais il y a à peu près 4 types de caséines. Et on peut produire un type de caséine, voire 2 types de caséine, mais pas tous les autres, pas toutes les autres caséines. Donc, on est finalement, on va dire, quand même plus proche de ce qui se passe physiologiquement dans la glande mammaire de vache, mais pas totalement. C'est ce dont je parlais, c'est que effectivement, toutes les fonctionnalités, on ne les retrouve pas.
Mais c'est votre but, finalement.
C'est le but des différents développements que je mets en place. Alors, sachant qu'aujourd'hui, on a plusieurs possibilités d'avancer. Hein. On travaille à la fois dans le biologique, c'est-à-dire qu'on va avoir des matrices extracellulaires qu'on va pouvoir utiliser pour être en structure 3D, mais on a aussi de la bio-ingénierie, de la biophysique, où on va utiliser des supports qui vont nous permettre, là aussi, grâce à des imprimantes 3D, de faire des supports de manière à remimer l'architecture. Donc, on a différents types de supports qu'on peut utiliser, qu'on va essayer d'utiliser, qu'on va essayer de combiner. Donc, ce sont plein de développements à mettre en place, on va dire, successivement, pour atteindre un but ultime qui est de reproduire la glande mammaire physiologique.
Alors moi, pour ma part, en fait, je travaille également à l'INRAE, hein, dans une unité qui s'appelle Michaelis, qui est localisée à Jouan-Josas, à proximité de Paris. En fait, moi, dans mon laboratoire, on s'intéresse au microbiote intestinal. Hein, donc, c'est tout cet écosystème microbien, hein, toute cette communauté microbienne, hein, qu'on héberge dans notre tube digestif. Et on s'est rendu compte, hein, ces dernières années, à quel point ces communautés microbiennes avaient un impact sur notre santé. J'en profite pour faire un petit peu de pub au stand à côté, sur le French Gut, hein, qui est aussi un projet en fait, de cartographie du microbiote intestinal de la population française, hein, qui est généré par l'INRAE également. Donc, pour revenir en fait à nos travaux, en fait, donc on s'intéresse en fait entre les interactions entre ces communautés microbiennes et la santé de l'hôte, et en particulier ces interactions entre communautés microbiennes et santé digestive. Et là, tout notre intérêt dans le développement des organoïdes, ça va pouvoir être en fait de disposer donc de ce modèle in vitro qui, encore une fois, est vraiment un modèle assez fabuleux parce qu'il va répliquer en fait toute la complexité en fait du tractus digestif in vitro et qu'on va pouvoir modéliser. Ça, c'est un terme important. Modéliser en fait en culture les interactions entre ces communautés microbiennes et donc le tractus digestif. Donc, on peut travailler. Ça permet vraiment de repenser des schémas expérimentaux qui sont pas du tout possibles in vivo, hein, par exemple, ou alors lors d'études cliniques. Donc on peut complètement simplifier, par exemple, les micro-organismes sur lesquels on veut travailler. On peut aussi générer des outils cellulaires, par exemple, pour mieux comprendre en fait les mécanismes qui sont impliqués dans ces interactions entre le microbiote et la santé digestive. Donc on travaille, nous, à partir d'organoïdes intestinaux issus de patients. Donc ça se fait dans le cadre de collaborations avec des cliniciens de la PHP. Hein. Donc on travaille à partir de biopsies intestinales, par exemple. Donc c'est petit comme une tête d'épingle. Et à partir de ça, on essaye de récupérer les cellules souches intestinales, de les mettre en culture. Hein. Donc en fait, ça commence par les mettre en culture dans un espèce de gel hein, dans lesquels les cellules souches vont bien se porter, vont bien se sentir. Et ensuite, justement, on va leur déposer ce fameux milieu de culture hein, qui va guider leur différenciation donc vers des cellules digestives. Et ensuite, en fait, à nous de jouer un petit peu avec les bactéries qu'on veut tester, les molécules qu'on veut tester. Voilà, donc on a des biopsies hein, d'individus sains ou alors d'individus atteints, par exemple, de pathologies inflammatoires intestinales ou alors des inflammations plus systémiques. Donc voilà le type d'approche en fait, qu'on est capable de développer grâce à ces outils d'organoïdes. Pour terminer, vous savez très bien que l'intestin en fait est connecté, comme l'a dit souvent en fait Laurence, connecté à d'autres organes. Notamment, on sait qu'il existe un axe, par exemple, intestin-cerveau. Hein, il suffit de se rappeler les situations dans lesquelles on est stressé, hein, où en fait, clairement, eh ben, quand on est stressé, il y a forcément souvent un impact sur le tube digestif. Donc on commence nous aussi à s'intéresser à ces différents axes entre microbiote, intestin et organes plus périphériques et notamment cerveau. Donc on va aussi continuer nous à développer des organoïdes mais plutôt par exemple cérébraux. Donc pour essayer là encore de modéliser in vitro en fait ces différents aspects.
Je vais juste un petit peu compléter parce que pour le coup, moi, je suis plutôt sur l'animal, sur la vache laitière. Et donc, forcément, on se pose aussi la question, mais pourquoi utiliser les organoïdes chez la vache laitière ? Enfin, des organoïdes de vache laitière. En fait, il faut savoir que dans l'élevage des vaches laitières, on a des maladies également. Hein, mais c'est le cas pour beaucoup d'animaux. Hein. En ce moment, on parle de la grippe aviaire chez les poulets, chez la vache laitière, il y a les mammites et les mammites ont un impact sur l'élevage qui est très important sur l'éleveur hein, parce que c'est un impact économique, financier. Et aujourd'hui, on cherche à trouver justement des solutions pour réduire ces mammites, mais également pour utiliser des alternatives aux antibiotiques, parce qu'une vache laitière qui a une mammite, eh bien, on va lui administrer des antibiotiques, sauf qu'aujourd'hui, il y a un grand enjeu de santé publique qui est l'antibiorésistance. Et l'antibiorésistance est liée à l'usage massif d'antibiotiques. Donc les organoïdes sont un outil qui vont nous aider à développer des alternatives à l'usage des antibiotiques.
Alors justement, voilà, on a fait le panel de tout, enfin pas de tout hélas, mais d'une partie de l'actualité des organoïdes, en fait de ce qu'on en fait actuellement. Si on se projette dans l'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer que les organoïdes nous permettent de faire d'ici 10, 20 ans, ce genre de choses ?
Il y a une application clinique qui se développe. Alors, en plus des différents points dont on a déjà parlé, hein, on peut les reprendre, hein, par exemple, que ce soit vraiment des outils qu'on puisse utiliser hein, pour dans la médecine personnalisée, donc comme outil un petit peu pour essayer d'identifier quel peut être le meilleur traitement pour un patient donné. Ça, je pense que vraiment, c'est un des espoirs et en tout cas une des promesses potentielles en fait, des organoïdes. Donc, il y a déjà un petit peu des plateformes qui commencent à se développer autour de ça. C'est toujours dans le domaine de la recherche, mais on sent que c'est des choses qui peut-être arriveront dans pas si longtemps que ça. Ça, c'est un premier point. J'ai envie de dire après, le côté greffe aussi, dont on n'a finalement pas beaucoup parlé, ça, c'est aussi vraiment une des perspectives d'application majeure des organoïdes, hein, que ce soit de l'autogreffe. Par exemple, on peut tout à fait imaginer pour un patient, par exemple, qui a besoin d'une greffe, par exemple, qui a subi pour X raisons une amputation intestinale, de pouvoir recréer in vitro en fait, des organoïdes intestinaux et puis d'essayer de faire une autogreffe. Donc, avec la grosse, évidemment, avancée, en fait, qu'il n'y a pas de rejet, évidemment, hein, puisque c'est l'un des problèmes en fait, des greffes actuelles quand on a des donneurs différents. En fait, c'est le rejet du greffon en fait, par le receveur. Donc, ça, c'est vraiment une des applications pour moi qui serait vraiment assez fabuleuse. On peut aussi penser, pourquoi pas, en fait, à faire aussi des reconstructions à partir d'organoïdes cérébraux, des reconstructions de régions cérébrales qui ont été lésées, par exemple. Donc, il y a un potentiel d'application qui est vraiment assez incroyable quand on parle d'organoïdes. Là, on parle des points positifs. Juste aussi, peut-être, il y a des applications un tout petit peu plus anecdotiques. Il y a des gens qui ont commencé à développer des organoïdes, par exemple, pour faire des glandes à venin de serpent. Donc, c'est compliqué, en fait, hein, d'obtenir du venin de manière traditionnelle. Donc, là aussi, c'est une façon, en fait, de produire des molécules pour faire des antivenins, etc. Donc, en fait, je crois que finalement, il y a beaucoup d'applications. Donc, je pense que pour l'instant, il y a le côté, en tout cas, médecine personnalisée, greffe qui reviennent de manière assez récurrente. Voilà, puis peut-être des applications peut-être un peu plus anecdotiques, un peu plus exotiques, mais voilà, en tout cas, voilà un petit peu le... Alors, on espère que les organoïdes vont tenir aussi toutes leurs promesses, voilà.
Oui, alors pour compléter, effectivement, je crois qu'il y a une étude actuelle sur la fabrication, la biofabrication de foie bioartificiel qui pourrait être utilisée chez des patients en attente de greffon. Et donc, ça, c'est une des applications possibles des organoïdes. Ça, c'est dans le biomédical. Après, moi, je vais revenir sur l'agronomique. Hein. On peut envisager aussi dans l'avenir, je parlais des productions in vitro. Donc, si les industriels s'y intéressent, et peut-être qu'il y a un avenir dans ces productions in vitro et qu'on peut peut-être envisager dans 20 ans, 30 ans d'avoir finalement un mode de production qui soit in vitro et qui remplace en partie l'élevage. Sachant qu'après, eh bien, il faut voir si la société ou si les consommateurs sont prêts à consommer ce type de production. Mais si aujourd'hui l'industrie y met des billes, c'est que forcément, ils y voient un avenir derrière.
Écoutez, merci beaucoup. Il nous reste un petit peu plus d'un quart d'heure et je pense qu'il y a beaucoup de questions dans la salle, je suppose. Donc du coup, je propose de laisser la parole au public pour que le public puisse poser toutes les questions auxquelles nous n'avons pas répondu.
Oui, bonjour. Je vais rebondir justement sur la dernière intervention qui concerne l'agronomie. Je voulais savoir si ce n'était pas l'occasion peut-être de repenser aussi le modèle de consommation, parce que là, vous parlez du lait de vache que vous allez potentiellement essayer de produire directement avec ces organoïdes. Mais ça pourrait peut-être être l'occasion de penser à d'autres animaux, parce que la vache, c'est pas... On l'utilise actuellement parce qu'elle produit genre 20 litres par jour, etc. Mais il y a peut-être d'autres laits animaux qui seraient plus facilement digestibles ou qui apporteraient peut-être de meilleurs nutriments aux humains. Donc si ce n'est pas plus compliqué de produire à terme du lait artificiel de vache ou de brebis, de yak, de jument, je ne sais pas quoi, c'est peut-être l'occasion de penser à d'autres animaux, voire du lait maternel artificiel. Hein, mais... Et pareil pour la viande, le bœuf, c'est parce que c'est une grosse bestiole, etc. Mais quitte à faire de la viande artificielle in vitro, ça pourrait être d'autres animaux aussi qu'on ne consomme pas actuellement, mais qui, parce qu'ils produisent peu ou ils se développent assez vite, etc. Mais sont, voilà, pas reproduire la même chose, bœuf et lait de vache, mais d'autres animaux, par exemple.
Oui, alors comme on est dans les... J'ai dit qu'on est dans les prémices et c'est exactement le cas. Aujourd'hui, le lait de vache, c'est 87% du lait produit en France. Donc aujourd'hui, c'est, l'espèce qui est privilégiée pour développer ce type de mode de production. Ce qui n'empêche qu'après, effectivement, on peut passer sur d'autres espèces, parce que ce qui est valable, la production d'organoïdes à partir de cellules de vaches est valable aussi sur la production d'organoïdes à partir de cellules de chèvres, à partir de cellules de brebis. Je pense que c'est une première étape. C'est déjà de mettre au point ce mode de production et ensuite peut-être de le diversifier. Parce qu'on sait de toute façon qu'à un moment donné, il va falloir... les industriels vont vouloir diversifier, ne serait-ce que pour que dans notre société de consommation, les clients, finalement les consommateurs, aient à leur disposition divers produits en fait.
Bonjour, vous avez vaguement abordé la question de la législation sur les cérébroïdes, je crois. Enfin, ça en est où? Parce que j'avais lu un truc comme quoi il fallait les détruire quand il y avait une activité électroencéphalographique. Qu'est-ce qu'il en est? Il y a toujours le fantasme du cerveau artificiel, en fait, qu'on peut retrouver dans la SF. L'an dernier, il y a un documentaire ici qui nous montrait aux États-Unis un type qui mettait des cérébroïdes dans des robots pour les entraîner. Enfin, est-ce que c'est du n'importe quoi ou est-ce que c'est encadré?
Alors pour l'instant, en fait, la législation, elle est plutôt, enfin, ou en tout cas le côté réglementaire, recommandation, c'est vraiment construction en fait, parce que effectivement, il y a une innovation technologique, méthodologique, et puis derrière, il y a le cadre réglementaire qui se met en place. Pour l'instant, en fait, encore une fois, on s'appuie plutôt sur l'existant en fait, donc qui sont le cadre éthique en fait pour tout ce qui est travaux en fait sur la personne humaine. Concernant les organoïdes, hein, d'une manière générale, effectivement, c'est vraiment des choses qui sont en cours de réflexion. Après, il n'y a pas d'obligation à les détruire, hein, en tout cas pas à ma connaissance, quand ils développent une activité électrique. En tout cas, quand il y a ça, c'est une étude, j'imagine, c'est l'étude à laquelle vous faites référence. C'est une étude où ils ont montré effectivement qu'il y avait une activité électrique dans ces organoïdes cérébraux. Donc, en fait, des ondes cérébrales et du coup, effectivement. Alors, qui mime plutôt, en fait, encore une fois, un cerveau dit immature, hein, donc plutôt cerveau fœtal. Mais évidemment, on n'est pas à l'abri. En tout cas, à force de développement, un jour, peut-être, il y aura des cerveaux un peu plus évolués, on va dire. Donc, en fait, pour l'instant, en fait, il n'y a pas d'obligation, mais c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui est en cours de réflexion, mais c'est vraiment des questions extrêmement importantes. Donc ça, c'est vraiment des choses qui s'adressent spécifiquement à un type d'organoïde. Alors évidemment, c'est l'objet de tous les fantasmes, hein, les organoïdes cérébraux. Donc effectivement, il faut quand même poser un cadre là-dessus. C'est vraiment des choses. Enfin, pour cette étude, en tout cas, effectivement, le côté qu'on ait un peu décrit des ondes cérébrales. Derrière, il y a eu beaucoup d'échos. Hein, est-ce que du coup, ces organoïdes cérébraux, est-ce qu'ils ont une conscience? Si oui, comment la mesurer? Comment faire? C'est plutôt des questions qui sont sur la table, en fait, actuellement, oui, qui sont en cours de réflexion. Il faut vraiment, et il y a tout un ensemble, en fait, de encore une fois, au niveau européen, il y a un groupe éthique, hein, notamment où partit beaucoup l'INSERM, qui est en train de réfléchir à tout ça, et il faut absolument qu'il y ait des recommandations et des réflexions autour de ça, c'est sûr.
En fait, il y a beaucoup de questionnements. Est-ce que onde cérébrale égale cognition? Ça, c'est une question auquel on ne peut pas forcément répondre. Donc, il y a des zones d'ombre, des zones un peu grises. Et c'est là toute la complexité, hein, de mettre en place une bioéthique et de donner un statut à ces entités qui sont un peu intermédiaires, et dont on ne connaît pas, c'est tout récent, on ne connaît pas effectivement tous ces aspects, on va dire, de cognition ou de ce que cela va devenir également, puisqu'on est on est dans une phase de développement. Hein.
Quelle est la place de l'outil informatique et plus particulièrement l'intelligence artificielle dans la recherche sur les organoïdes?
Alors là, on parle du numérique et de l'intelligence artificielle. En agronomie, le numérique et l'intelligence artificielle s'intéressent plutôt à l'élevage de précision qu'aux organoïdes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est surtout utiliser des biocapteurs, des capteurs sur les animaux, pour cette fois-ci pas avoir une médecine personnalisée, mais avoir une alimentation personnalisée, une alimentation sur mesure, voilà. Et pouvoir également obtenir des données, des informations, des data. Et on parle aussi de big data dans l'élevage, sur les animaux. Pas véritablement sur les organoïdes, mais on sait que de toute façon, ces avancées, elles sont concomitantes, hein, que ce soit le numérique, les big data, l'intelligence artificielle, à un moment donné, eh bien, s'appliquera aux organoïdes. Ne serait-ce que parce que on parle d'organoïdes pour l'instant que l'on développe de façon assez marginale, mais le jour où il va falloir produire des organoïdes en masse avec des bioréacteurs, on va peut-être se retrouver justement à produire un grand nombre d'organoïdes et pour éventuellement tester un grand nombre de cibles thérapeutiques. Et donc là, on va être sur un nombre où effectivement le numérique aura toute sa place.
Bonjour, j'avais une question plus dans la recherche médicale. Vous avez parlé de tumoroïdes et je voulais savoir est-ce que sur le long terme, le don de cellules souches va s'organiser comme un don du sang ou don de gamètes par exemple.
Alors ça c'est une question à laquelle moi j'ai pas, j'avoue que j'ai pas de réponse. Hein. Pourquoi pas, c'est possible. Hein. En tout cas, là, évidemment, pour tout ce qui est la recherche sur les tumoroïdes. Alors déjà, en fait, on parle bien de tumoroïdes. Hein. Les tumoroïdes, en fait, c'est un peu à part par rapport aux organoïdes. Hein. Ce n'est pas des organes, en fait, les tumeurs. Donc, on parle bien de tumoroïdes. Parce qu'à un moment, on parlait d'organoïdes, tumoraux, etc. Je pense que d'un point de vue vocabulaire, on a évacué, en fait. On parle bien de tumoroïdes. Donc après, en fait, c'est effectivement du coup des études cliniques où évidemment les tumeurs sont récoltées sont données par des patients. Après, en termes de dons de cellules souches ou d'IPS, je sais pas, peut-être, oui, peut-être ça peut être un futur possible, oui, pour l'organisation de ces biobanques, ouais.
On n'en est encore pas là. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément les réponses. Voilà, parce qu'on n'en est pas à une organisation, enfin une logistique pour récupérer ce type de cellules et derrière les cryogéniser. Voilà.
Après, pour revenir sur les tumoroïdes, hein, c'est ce que j'ai dit très rapidement pendant la table ronde, en fait. Il y a déjà des plateformes, hein, qui commencent à se construire et à, justement, dans l'objectif, encore une fois, d'avoir ces biocollections de tumoroïdes et de pouvoir soit tester certains médicaments, essayer d'identifier ceux qui sont les plus efficaces, ou alors encore de faire de la médecine personnalisée. Donc ça, c'est des choses qui, concrètement... Alors, on en est encore une fois dans le domaine de la recherche, hein, en train de valider, en fait, si la réponse sur organoïdes est similaire à celle qu'on peut observer en clinique, donc sur la personne. Hein, mais voilà, c'est des choses qui commencent à... Donc là aussi, il faudra sans doute un cadre pour tout ce qui est collecte et biobanking et cadrage de biobanking, ça c'est sûr.
Mm. Vous avez parlé de liens avec la vascularisation et de liens, par exemple, des intestins avec le cerveau. Mais comment les liens avec nos systèmes hormonaux sont reproduits dans les organoïdes ? Est-ce qu'il y a des organoïdes de la thyroïde ou est-ce que ça fait partie de la culture in vitro ou de la modélisation ou autre ?
Alors oui, il y a des organoïdes de la glande thyroïde. Après, en fait, pour l'idée de votre question, c'est en fait d'aller encore davantage pour plus de complexité et se rapprocher encore plus de la complexité d'un organisme, c'est-à-dire connecter en fait toutes ces entités finalement les unes par rapport aux autres. Alors il y a déjà des choses qui existent, hein. Par exemple il y a des organoïdes cérébraux qui ont été connectés par exemple à de la moelle épinière, puis ensuite à des cellules musculaires, donc là on a pu retracer un petit peu un circuit, donc il y a aussi des organoïdes je crois hépatiques et rénaux qui ont été connectés ensemble, donc ça c'est des choses aussi qui commencent à se construire, qui sont plus complexes hein, d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue technologique. Mais oui, en tout cas, ces espèces de multi-organoïdes par différentes stratégies, c'est des choses qui commencent à se développer également. Après, pour tout ce qui est relation avec le milieu, si par exemple, on peut répondre assez facilement à la question est-ce qu'une hormone a un impact sur tel ou tel organoïde, il suffit de la mettre dans le milieu de culture. Mais voilà, pour aller davantage plus loin, on a quand même des possibilités. Alors, encore une fois, c'est là encore, si les organoïdes restent en fait dans le domaine d'experts, ça c'est encore plus un domaine compliqué à mettre en place. Mais des multi-organoïdes, oui, on commence à les voir arriver, oui.
Alors c'est effectivement là où on veut tendre, hein, c'est d'avoir plusieurs organoïdes qui soient interconnectés. Mais aujourd'hui, la plupart des organoïdes baignent dans un milieu de culture et on essaye de recréer in vitro en ajoutant des hormones. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir déjà des connaissances sur la différenciation des cellules, parce qu'on sait bien que quand on va les cultiver in vitro, il va falloir leur apporter ces différentes hormones à des doses, à la fois à des doses et puis à la présence de certaines hormones et un équilibre hormonal qui va permettre de différencier notre organoïde. Et c'est d'autant plus complexe qu'on sait très bien que dans l'organisme, eh bien, il peut y avoir des ratios d'hormones qui vont induire certaines différenciations de type cellulaire et pas d'autres. Enfin voilà, donc c'est toute la complexité. Mais aujourd'hui, il y a également des outils, des supports qui sont basés sur le fait justement d'apporter ces hormones par de la microfluidique. Parce qu'on n'a pas parlé forcément, on a parlé juste des milieux de culture et éventuellement de la bio-ingénierie. Mais dans la bio-ingénierie, il y a des puces qu'on appelle organ-on-chip. Et en fait, on va sur une petite puce essayer de recréer à la fois les organoïdes et puis tout ce système un peu de vascularisation, hein, c'est-à-dire ces milieux de culture avec les différentes hormones. Tout ça sur une petite puce.
Bien, merci beaucoup pour cette rencontre et cette table ronde, c'était très intéressant. Et puis j'espère qu'on a répondu à vos questions.
Merci à vous.